France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Sacha Mattei et Fanny Richer, réalisée par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. C'est le dernier volet de notre série consacrée à la Côte d'Ivoire à l'approche du premier tour de l'élection présidentielle prévue samedi, le 25 octobre, après la vie politique verrouillée, après les tensions fratricides avec le voisin burkinabé et après la rente du cacao menacée. Place à la musique qui a historiquement toujours résonné de manière très politique en Côte d'Ivoire. Du zouglou au rap ivoire, la musique au pouvoir, c'est le sujet de Culture Monde ce matin.
Toujours un rythme, tac, 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 tac. Et c'est parti comme ça en zouglou.
Zoulé, allez, zouzouma.
Aujourd'hui, les jeunes sont livrés un peu à beaucoup de choses. Les artistes peuvent nous aider à mieux comprendre comment nous devons nous comporter au sein de la société. Nous sommes en temps d'élection et à travers les paroles de la musique, on peut donner des conseils pendant et même après pour mieux apporter la paix dans nos pays.
La polémique n'a pas lieu d'être. C'est l'ADN, l'essence même du zouglou. Dans l'ensemble, le zouglou a toujours eu un titre. Et chaque année, et tous les groupes zouglou ont toujours un titre qui pique. Là où ça fait mal.
Le zouglou a apaisé vraiment les cœurs des Ivoiriens. Ceux qui se sentaient éloignés, qui n'arrivaient pas à crier leur ras-le-bol, c'est le zouglou qui parle pour eux.
C'est une musique que ceux qui l'écoutent ont très vite dans les jambes et dans le sang, une musique que les radios, avant l'avènement du smartphone, déversaient au hasard sur les transistors crachotants et grésillants, que ce soit dans les banlieues populaires d'Abidjan ou dans les salons bourgeois. Le zouglou ivoirien s'est forgé dans les années 90 dans les chambres étudiantes de Yopougon, d'abord très politique, lié à l'opposition portée à l'époque par Laurent Gbagbo. Il est progressivement devenu un produit plus commercial sous l'influence notamment du groupe Magic System, puis bande-son d'une réconciliation nationale bien orchestrée, c'est le cas de le dire, par le pouvoir. Lors de la dernière élection présidentielle, par exemple, en 2020, le groupe Yodé et Sido chantait encore les louanges de Laurent Gbagbo, meilleur ennemi d'Alassane Ouattara. Un rappel à l'ordre et une condamnation plus tard, ils sont devenus les chantres de l'unité nationale, qui est certes une belle idée, mais aussi le leitmotiv du président sortant. Une mise au pas imposée pour certains, largement consentie néanmoins pour la plupart, et surtout pour la nouvelle génération d'artistes, qui du rap ivoire au Biama semble aujourd'hui plus préoccupé par la structuration de l'industrie musicale ivoirienne et par l'exportation de leur musique à l'international que par l'engagement politique. Bonjour Léo Montaz.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur en anthropologie politique au LAMC, qui est le laboratoire d'anthropologie des mondes contemporains. Vous avez d'abord travaillé sur le retour à la terre de jeunes ivoiriens d'Abidjan, originaires du centre-ouest du pays. Vous en aviez fait un livre, Retour au village, jeunesse et pouvoir en Côte d'Ivoire, aux éditions Cartala. Aujourd'hui, vous vous intéressez plutôt à la musique, vous rencontrez tous ces artistes ivoiriens dont on va parler tout au long de cette émission. D'abord, si la campagne présidentielle en cours était une bande-son, elle ressemblerait à quoi, Léo Montaz ?
Ça serait une bande-son relativement paisible, en tout cas pas une bande-son très agressive, étant donné que la plupart des musiques qu'on entend aujourd'hui sont des musiques plutôt de louange, ou en tout cas des musiques qui mettent en valeur la nation ivoirienne. Mais la campagne étant assez répressive, on a peu entendu de musique d'opposition ces dernières semaines. Donc voilà, en tout cas, si c'est du zouglou, c'est du zouglou plutôt grand public et festif, et pas du zouglou d'opposition.
Et pas seulement du zouglou, même parmi les artistes très présents à la fois physiquement aux côtés des figures politiques qu'ils soutiennent ou ceux qui ont simplement sorti des morceaux qui abordent explicitement l'élection à venir, et bien parmi eux, il y a Alpha Blondy, par exemple, avec Sacrifice électoral.
Spécial dédicace à la famille politique ivoirienne.
pour les élections présidentielles à venir. Zéro violence, zéro mort. Non, pourquoi à chaque élection vous versez le sang?
Alpha Blondie, Sacrifice électoral, des morceaux qui aussi ne prennent pas nécessairement position pour un candidat à la présidentielle, Léo Montaz, mais qui appellent à ne pas attiser la haine. C'est le cas là de cette chanson, c'est le cas de beaucoup d'autres. Et est-ce que surtout ce sont des chansons qu'on entend depuis en fait que les élections présidentielles créent des moments de chaos comme depuis 2002?
Oui, tout à fait. Il y a eu une évolution dans les morceaux qu'on entend durant les campagnes. Historiquement, il y avait des morceaux d'opposition qui dénonçaient les régimes en place, qui revenaient sur les grandes réformes, qu'on marchait ou non, mais qui avaient un discours critique. C'est vrai que depuis Ouattara, donc depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, durant les campagnes, il y a plutôt un appel à l'apaisement, comme ce morceau d'Alpha, mais comme d'autres, avec l'idée que les Ivoiriens ont sans doute assez souffert de la crise dans les années 2000 et qu'il est plutôt aujourd'hui l'heure de la réconciliation.
Alors, il y a aussi des titres qui étaient déjà sortis lors d'élections précédentes et qui ressortent à l'occasion de ce nouveau scrutin. Mais en même temps, on pourrait dire que les jeux sont faits comme dans les élections, celles de 2020. Il y a par exemple la chanson « On les connaît » d'Amaral d'Afrique. Le clip commence par le chanteur qui appelle une liste d'amis sur son téléphone pour lui dire que le président est venu, qu'il va recruter des joueurs sous-entendus de foot et les envoyer en Europe. Et ça se termine invariablement par « Métal blé, à ta patte blé, bon bah laisse tomber ». Parmi tous ceux qui nous font la cour, on reconnaît ceux qui sont vrais, dit-il. Il y a aussi ceux qui, en revanche, ne cachent absolument pas leurs préférences et donnent le nom aussi du candidat qu'ils soutiennent.
Le bien-être aujourd'hui de ce pays-là est dans la main de Ado. Et il y a des projets en cours. Et ça, c'est une vérité. Et cette vérité-là que je suis en train de dire, c'est ça le rôle d'un griot.
Je rends hommage à l'un des meilleurs présidents d'Afrique, Son Excellence Alassane Ouattara. Merci d'avoir amené la paix en Côte d'Ivoire.
Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Ici, il y a la joie et la paix. Pays hospitalier des éléphants.
À quoi bah?
Ici, ça chauffe pas.
Ici, ça chauffe pas.
Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Le pays de Fouiboyi. Ici, on est champion d'Afrique. Petit Paris d'Afrique. Pays du cacao.
Sidiki Diabaté, extrait d'un titre qu'il a sorti à l'occasion de la campagne présidentielle. Ça s'appelle Bâtisseur, donc ça a quelques jours. Il a toujours chanté ce genre de texte, Sidiki Diabaté, où il s'est fait connaître autrement et après, il a été touché par la grâce.
Il a plutôt été touché par la grâce. Sidiki n'a pas toujours chanté ce genre de morceau. Ce morceau est intéressant quand même parce qu'il est tout à fait dans l'idéologie de Ouattara aujourd'hui. Il fait à la fois appel à la grande époque de Félix Oufouébouni, donc au fouettisme, avec cette Côte d'Ivoire émergente. Il fait appel au développement, au grand chantier, et il rappelle aussi un moment récent mais très important, donc cette victoire à la Cannes qui a aussi propulsé l'image de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale
l'année dernière.
Tout à fait. Et qui a aussi été un moment où la Côte d'Ivoire a eu à rayonner sur le monde entier et où il y a eu vraiment l'image du pays qui s'est rehaussée.
Et ça passe à la radio, ça?
Alors, je ne sais pas si ça passe en Côte d'Ivoire, j'y suis pas actuellement, mais ça m'étonnerait pas, oui.
Parce que lui, c'est un chanteur malien, Sidiki Diabaté. Il est devenu une star en Côte d'Ivoire après s'y être réfugié. Les gens dansent dessus ou considèrent la chanson comme un clip de campagne? C'est ça qui est difficile à mesurer. Est-ce qu'aujourd'hui on considère ça vraiment comme de la musique ou comme de la politique, comme un clip réellement de campagne pour Alassane Ouattara qui se représente?
Pour moi, ce type de morceau est clairement dans le clip de campagne. Alors, c'est pas le morceau officiel de la campagne, il y en a un autre, Ado dans le dos, je crois. Est arrivé dans le dos, mais effectivement ça correspond à ce type de morceaux qui sont des morceaux de campagne qui sont pas voués, on va dire, à rester dans les mémoires après ça. Mais
il devait donner un concert le 18 octobre au stade Félix Oufouébouni d'Abidjan en hommage à la campagne d'Alassane Ouattara, mais ça a été annulé finalement. On ne sait pas pourquoi exactement.
Officiellement, c'est pour des problèmes d'agenda avec des avec la Fédération Ivoirienne de Football. Mais même s'il n'a pas donné ce concert, il était quand même présent pour le meeting de la jeunesse de Ado il y a quatre jours. Donc il est quand même, enfin en tout cas, sa proximité avec le pouvoir ne fait aucun doute. Il pose sur les photos avec la première dame, il était au meeting, voilà, il est dans les réseaux.
Donc Ado Alassane Ouattara. Il y a quelques mois, alors c'était avant la campagne, un autre artiste, DJ Kérosène, qui depuis a fait enlever le titre de DJ parce qu'il veut vraiment se revendiquer aujourd'hui du Zouglou. Il avait été en charge de faire la campagne de sensibilisation des Ivoiriens à la couverture maladie universelle, ce qui est certes une honorable mission, mais il y a quelque chose de très intrigant de le voir chanter en lunettes de soleil sous les néons des bureaux de la cave d'Abidjan, entre une poignée d'officiels et un tableau Velleda. Alassane Ouattara sait le pouvoir de la musique et l'intérêt pour lui d'être entouré d'artistes. Léo Montaz, il le sait depuis son premier mandat en 2011, qui avait commencé après plusieurs semaines de violence, une guerre civile et ses 3000 morts.
Oui, Alassane Ouattara et son équipe, en tout cas, il n'y a pas de doute, ils le savent. L'une des premières grandes actions du régime a été d'organiser des tournées de la réconciliation nationale, qui étaient chapeautées par les deux grandes figures du reggae ivoirien, donc Alpha Blondy et Tikanja Fakoli, qui étaient en grande tension à cette époque. Et Alassane Ouattara a réussi à les mettre autour de la table et a organisé donc ces deux grandes tournées qui ont aussi permis le retour des artistes en exil suite à la crise ivoirienne. Et ça a été pensé comme un grand moment de la réconciliation. Et donc il y a eu une première édition en 2012, une deuxième en 2014. Et donc voilà, par-delà le fait que les artistes sont revenus, c'était aussi un signe très fort, symbolique, pour montrer que la réconciliation était en route.
Et ça s'était bien passé entre Alpha Blondy et Tikanja Fakoli notamment.
Oui, je suis pas sûr que ce soit très amis toujours aujourd'hui, mais en tout cas ça a été le moment de leur réunion. Et tout ça d'ailleurs, l'organisme qui a organisé les concerts était la boîte de production de Asalfo, donc le leader des Magic System, autre grand groupe ivoirien. Donc ça a été vraiment un moment, mettre un peu tous les grands acteurs de la musique autour de la table. Ouattara a énormément, en tout cas le régime a énormément utilisé la musique, également, alors pour des campagnes comme l'a fait Kérosène, il y avait aussi pour le Covid, il y avait eu des morceaux, tout ce qui est prévention, ils l'ont aussi beaucoup utilisé encore durant la CAN, avec des morceaux officiels, mais aussi plein de morceaux pour chanter la gloire de la nation, le développement. Et donc oui, il y a un fort intérêt de ce régime pour la musique, mais aussi parce que la musique en Côte d'Ivoire, c'est probablement la forme d'art la plus consommée, et du coup c'est aussi la forme d'art la plus influente, donc forcément les régimes politiques s'en méfient et cherchent plutôt à l'avoir de leur côté.
Et vous dites aujourd'hui, Léo Montaz, en pleine campagne présidentielle, les artistes qui chantent pour l'opposition, on les entend beaucoup moins, voire ils n'existent quasiment plus, alors que tant d'artistes, il y a encore 25-30 ans, s'engageaient principalement pour Laurent Gbagbo, on va en parler, contre le pouvoir en place à l'époque, en tout cas avant l'élection de Laurent Gbagbo en 2000. Les figures musicales de l'opposition à l'époque sont à peu près rentrées dans le rang. Avant de le raconter plus longuement et nous en expliquer les raisons, racontez-nous, Léon Montaz, ce qui s'est passé lors de la dernière élection présidentielle en 2020, quand l'un des groupes les plus célèbres de Côte d'Ivoire, Yodé et Siro, ont été condamnés à un an de prison de sursis. Qu'est-ce qui s'était passé ?
Donc Yodé et Siro avaient sorti un album dans lequel il y avait un morceau très critique du pouvoir, On dit quoi, où ils dénonçaient la politique du président, et le régime leur en voulait déjà un petit peu. Quelques temps après les élections, peut-être 2 ou 3 semaines plus tard, ils donnent un concert à l'Internat, qui est l'une des grandes scènes musicales de Zouglou à Abidjan, sur laquelle donc Siro accuse le procureur de la République de mener une justice partiale, donc de n'arrêter que et de juger que les opposants, que les militants de l'opposition. Et il y a des fumigènes sur la scène, enfin ça se passe un peu mal, et 2 jours plus tard le duo se fait arrêter au petit matin, ils dormaient, ils sont arrêtés par la police, passent en procès et donc se font condamner. Parce que Yodé et Siro avec ce morceau là avaient vraiment été des figures à ce moment là d'une opposition au président, et mais par la suite tout ça a bien changé parce qu'aujourd'hui ils sont plutôt rentrés dans le rang, et même je ne sais pas s'ils soutiennent, mais en tout cas, ils sont tout à fait intégrés à cette nouvelle économie musicale qui s'est mise en place.
Et après cet incident, la Fédération ivoirienne des artistes de Zouglou s'était sentie obligée de présenter ses excuses au président Alassane Ouattara et lui demander sa clémence.
Ne dit-on pas que l'erreur est humaine, le pardon divin, et qu'une faute reconnue est à moitié pardonnée? Nous sommes sûrs, monsieur le procureur, qu'en 25 ans de carrière de Yodé et Siro, vous avez aimé, et avec vous beaucoup d'Ivoiriens, au moins une de leurs chansons, au nom de laquelle nous demandons votre clémence en cette période de fête de fin d'année. Nous voulons terminer pour dire merci au chef de l'État, Merci à Madame la Première Dame. Merci à tout le gouvernement. Et enfin, merci au procureur de la République.
Ses appels, ou plutôt ses prières, avaient, semble-t-il, été entendus, puisque Yodé et Siro ne sont pas passés par la case prison. Vous dites, aujourd'hui, ils font plutôt profil bas, en tout cas, dans leurs chansons, même sans prendre explicitement position pour Alassane Ouattara, ils sont quand même dans une rhétorique qui lui est familière à Alassane Ouattara, qu'il défend, cette rhétorique du développement du pays. Ils ont une fondation pour la reforestation, je crois. Dans quelle mesure sont-ils aujourd'hui impliqués dans la vie infrapolitique, on va dire, ivoirienne?
Alors, effectivement, aujourd'hui, Yodé et Siro portent plutôt un discours du développement de leur pays. Ils ont donc cette fondation Yodé et Siro qui fait la campagne pour le reboisement populaire, ça s'appelle, qui est tous les ans, dans lequel ils essayent de renouveler le couvert forestier de la Côte d'Ivoire, qui a perdu 80% de son couvert forestier, ou 90% même, je ne sais plus, depuis 50 ans.
Ce qui est une noble cause, mais en même temps, ils participent à des campagnes de publicité pour la compagnie Petro-Ivoire.
Exactement. Et donc, en fait, ils sont rentrés grâce à leur engagement dans le développement. Ils sont aussi rentrés dans le giron des politiques publiques et de l'aide à tout ça. Et donc, ça leur bénéficie aussi pour leur affaire. C'est devenu les égéries d'une marque de bière, la marque Ivoire, qui est le groupe Heineken. Ils ont fait des publicités pour Petro-Ivoire. Donc, le fait de rentrer dans cette perspective d'une Côte d'Ivoire rayonnante, ça leur ouvre aussi un carnet d'adresse et ça leur permet aussi de faire leur affaire comme ils le souhaitent. Mmh. Je voudrais juste dire une petite chose sur l'extrait qu'on a entendu juste avant. La personne qui parle, c'est Pat Sako, qui est donc le président de la Fédération
des musiciens de Zoulou.
Qui est aussi donc le chanteur principal du groupe Espoir 2000. Et ce qui est marrant, donc, il dit ça il y a 5 ans, et l'un des principaux morceaux aujourd'hui qui dénonce le pouvoir, c'est lui qui l'a signé.
Ah.
Dans cette campagne en 2025, donc le morceau s'appelle Sa Balance, un morceau de Zouglou dans lequel il dénonce aussi les politiques ivoiriens. Donc comme quoi on peut avoir plusieurs discours très vite.
Ou alors il s'est senti très humilié d'avoir dû faire ce discours-là il y a 5 ans et ça l'a un petit peu retourné peut-être. En tout cas, cette trajectoire de Yodé et Siro, elle dit quelque chose de celle du Zouglou dans son ensemble. L'année dernière, Léo Montas, dans la revue Politique Africaine, vous aviez fait paraître cet article « Faire le pont entre la rue et le pouvoir » ou « Le difficile équilibre de l'engagement des artistes en Côte d'Ivoire », où vous racontiez comment les artistes ivoiriens, et particulièrement de Zouglou, avaient été peu à peu institutionnalisés, voire digérés par le système. Comment est-ce qu'on peut définir le Zouglou? C'est vrai qu'on ne l'a pas fait depuis le début de cette émission. Comment vous le définissez?
Alors, le Zouglou, du coup, donc c'est une musique qui naît, comme vous l'avez dit au tout départ, dans les campus étudiants dans les années 90. Et c'est une musique qui revêt, qui est à la croisée à la fois des pratiques d'animation plutôt traditionnelles ivoiriennes et du monde syndical ivoirien, de la FESI.
La FESI, c'est encore quelque chose. c'est la Fédération étudiantine de Côte d'Ivoire.
Tout à fait. Et donc, en fait, le Zouglou naît dans ces campus à la jonction entre des militants de la FESI et des gens qui pratiquaient l'animation, dont Didier Bilé, qu'on a entendu en introduction de l'émission. Et c'est ce mélange entre l'animation et le politique qui crée le Zouglou et qui en fait une musique au début plutôt partisane, ou tout du moins une musique populaire qui décrit les conditions de vie et les combats du peuple ivoirien, un peu de monsieur, madame, tout le monde.
Parce qu'il faut expliquer le contexte, on est dans les années 90, il y a déjà eu la décennie précédente une génération d'artistes engagés auxquels Alpha Blondie, dans un autre genre, le reggae, avait ouvert la voie dans les années 80. Donc, en s'opposant au système de parti unique et de parti État dirigé depuis l'indépendance par Félix Houphouët-Boigny, là, on est vraiment dans les années 90. Le régime s'est ouvert au multipartisme. Quelles luttes vont faire leur les jeunes artistes de Zouglou? Tout commence dans ces cités universitaires d'Abidjan avec le Z1, Zouglou premier, j'ai nommé Bilé Didier.
Et voilà, nous sommes en train d'arriver à la cité, l'ex-cité universitaire de Yopougon. On va garer la Zouglou mobile quelque part ici. Et moi, j'étais là, c'était le bloc 23. Et au bloc 23, c'était vraiment du Zouglou. Ma chambre était là. Et c'est là qu'on a commencé les premiers pas. On s'asseyait, faisait de la percussion, on dansait. Et après, nous, quand nous sommes partis, il y a eu des groupes qui sont venus après. Il y a eu le groupe Lacrymogène C5. Vous voyez, ils ont vécu là. Lacrymogène, groupe Lacrymogène Zouglou. C'est des vestiges qui sont restés. C'est là même le début de tout ce qui était le Zouglou. On chantait, on défilait sous des pas de Zouglou. Pour faire des meetings, on faisait des concerts Zouglou qui attiraient du monde. Et puis après, les leaders syndicaux venaient parler. Oui, le Zouglou a toujours eu, et même jusqu'à présent, dans toute l'histoire même de la Côte d'Ivoire nouvelle depuis 1990, sa place à chaque moment qu'il y a eu des crises. Le Zouglou a fait de la Côte d'Ivoire un peu ce qu'elle est aujourd'hui.
Voilà, voilà,
ah,
voilà,
la vie est si bien tirée.
Voilà,
elle est belle.
Voilà,
on rencontre beaucoup de
problèmes. Voilà,
lorsqu'on voit
voilà,
un étudiant, on l'envie.
Voilà,
il joue bien sapé.
Voilà,
joli garçon, sans
voilà, problème.
Mais en
voilà,
fait, il faut rentrer dans son
voilà,
milieu pour connaître la misère et
voilà,
la galère de l'étudiant.
Voilà,
oh, bon Dieu.
Voilà,
qu'avons-nous fait pour subir
voilà,
un tel sort? Et c'est cette manière d'implorer le Seigneur qui engendre le Zouglou dans sa philosophie qui permet à l'étudiant de se recueillir et d'oublier un peu ses
problèmes
dans son don, le Zouglou.
C'est le titre qui a fait connaître Didier Billet et son groupe Les Parents du Campus Ambiance en 1991. Alors, ils faisaient plutôt partie, eux, de la petite bourgeoisie ivoirienne, puisqu'ils pouvaient, ils avaient les moyens de faire des études. On est en pleine lutte pour la démocratisation de la vie publique. Ce morceau devient l'étendard d'une jeunesse, par ailleurs impliquée dans la Fédération Estudiantine de Côte d'Ivoire, la FESI, dont vous nous parliez, Léo Montaz, dont seront secrétaires généraux quelques années plus tard de futurs hommes politiques de premier plan comme Guillaume Soro ou Charles Blégoudé, protagoniste de la crise ivoirienne de 2002 à 2007, mais pour qui penche son premier secrétaire général, Martial Ahipo.
Alors Martial Ahipo, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui est plutôt issu du communisme, proche donc de la gauche ivoirienne, mais qui n'a jamais pris position pour Laurent Gbagbo de manière très ouverte. Mais qui est clairement dans le spectre de la gauche. D'ailleurs, en 2000, il a préféré prendre position pour Robert Guéhi, donc ce général qui a été mis à la tête de l'État suite au coup d'État.
Et qui a organisé les élections de 2000, dont Laurent Gbagbo sortira vainqueur. Mais là, dans les années 90, ce qu'on raconte, Laurent Gbagbo est encore dans l'opposition.
Ouais.
Et c'est quand même plutôt vers l'opposition que penchent ces jeunes-là.
Mais je crois que Martial, en personne, en tout cas, s'est toujours méfié de ce parti-là. En revanche, bon, c'est évidemment, en tout cas, cette gauche de l'opposition, c'est sûr. Mais la FESI a été proche, historiquement, donc, du FPI de Laurent Gbagbo, avec à différents degrés. Quoi.
Comment le Zouglou, son esprit contestataire et grivois, comme vous l'écrivez, va progressivement faire danser toute la Côte d'Ivoire et pas seulement les quartiers populaires d'Abidjan. Ça passe aussi par des animateurs radio et télé qui soutiennent le mouvement. Mais est-ce qu'ils peuvent diffuser, alors que les élections n'ont pas encore eu lieu, que le système est quand même encore assez verrouillé, est-ce qu'ils peuvent diffuser les titres de ces artistes?
Alors, ils pouvaient, mais ils trichaient un petit peu. Il se trouve que le Zouglou est souvent chanté dans d'autres langues que le français, dans des langues ethniques de Côte d'Ivoire, notamment le bété. Et les responsables à l'époque de la radio-télévision ivoirienne ne comprenaient pas cette langue. Et donc les animateurs leur cachaient le vrai sens des paroles. Et le Zouglou est cryptique au début. Il utilise des expressions qui sont forgées par les étudiants. Et ces expressions disent des choses mais en cachent d'autres. Et seuls les connaisseurs connaissent. Et donc, voilà, c'était pas évident à l'époque pour le pouvoir de comprendre toute la portée politique de ces textes. Et les animateurs radio et télé qui ont joué un rôle de fonds extrêmement importants pour la promotion ont joué sur ce double sens du Zouglou.
D'où l'émergence d'une véritable scène Zouglou avec des groupes davantage issus des classes populaires qui ne font pas nécessairement des études à l'université d'Abidjan, les garagistes, les salopards, les poussins-chocs, avec des auditeurs qui les suivent, qui viennent aussi de ces quartiers-là. Au départ, donc, ces groupes, même s'ils vendent beaucoup d'albums, ne sont pas très bien rémunérés, ce sont plutôt leurs producteurs qui encaissent. Est-ce que l'élection de Laurent Gbagbo en 2000 contribue à changer quelque chose?
Alors, oui, ça change quelque chose, c'est que l'industrie musicale, du fait de la crise ivoirienne qui va suivre l'élection de Gbagbo, l'industrie musicale est complètement déstructurée, avec des réseaux pirates qui se mettent en place pour la vente des cassettes, avec des spectacles live qui sont soumis un peu aux aléas de la crise et aux bonnes volontés de tel ou tel homme politique qui accepte d'en faire le mécénat. Et donc, dans ce contexte-là, l'industrie musicale s'informalise beaucoup par rapport à la décennie précédente. Et en même temps, les artistes se rapprochent aussi de plus en plus de tout un spectre de proches du régime qui leur permettent de survivre grâce soit à du don, soit à du mécénat, soit à des enregistrements d'albums, soit à des participations à des meetings. Et donc, à ce moment-là, il faut le dire clairement, la musique se rapproche très fortement du politique et du pouvoir, avec une forme de cooptation.
Alors, c'est parce que c'est dans ce contexte politique, dans ce contexte musical que se fomente politiquement une rébellion armée qui va parvenir en quelques mois à conquérir la moitié nord du pays avant d'être stoppée à mi-chemin vers la capitale. La Côte d'Ivoire est coupée en deux entre un sud dit loyaliste favorable au président en place, Laurent Gbagbo, et un nord sous contrôle de la rébellion armée. Et pendant ce temps, Magic System sort son premier tube. Est-ce qu'à l'époque, Léo Montaz, on a dansé sans le savoir sur le morceau d'un groupe qui avait une position politique claire quant à la crise, la guerre en train de couver alors en Côte d'Ivoire et qui se déclenchera d'ailleurs 2 ans plus tard en 2002?
Le parcours de Magic System, à l'époque, je pense qu'eux sont encore dans la promotion de leur album et de leur réussite en France, mais très vite, le groupe se rapproche effectivement du pouvoir, en tout cas de l'opposition, et va devenir un symbole hein, par la suite de la réunification. Assalfo, le leader des Magic System, sera ambassadeur de bonne volonté. Il est aujourd'hui assez proche de la première dame, Dominique Ouattara. On est en tout cas sur un groupe qui va largement accompagner cette idée d'une Côte d'Ivoire rayonnante, émergente, attentive aux politiques du développement. Et d'ailleurs, les Magic System, on parlait tout à l'heure de la fondation UD Siro, mais les Magic System ont été les premiers à faire leur fondation dans ces groupes de musique, et la fondation Magic System a énormément investi dans la santé, dans l'éducation. Mmh. Et donc, ce groupe-là, en tout cas, a vraiment une importance assez forte dans ce mélange des genres entre un engagement pour le développement, mais donc une forme d'engagement politique qui soutient un régime comme celui de Ouattara, la musique à côté. Ouais.
Parce que vous écrivez que dès le début du conflit en 2002, les artistes de Zouglou vont adopter un registre d'engagement ambigu qui lie un discours populiste sur les dérives du pouvoir et un discours patriotique qui défend une vision parfois xénophobe de la communauté nationale. C'est-à-dire que les artistes vont porter ce discours sur l'ivoirité dont on a beaucoup parlé depuis lundi, ce discours qui a émergé sous Henri Conan Bédier et qui ensuite a été un moteur des violences à partir de 2002.
Alors, sur l'ivoirité, justement, là, ils s'y sont plutôt opposés. Les artistes ont été contre la rébellion armée parce que ils étaient contre le fait qu'on prenne les armes dans leur pays. Mais en fait, c'est pour ça que le discours est ambigu. C'est que d'un côté, ils ont largement décrié ce virage ethno-nationaliste qu'avait pris le régime d'Henri Conan Bédier, puis de Laurent Gbagbo. Ils ont aussi critiqué Laurent Gbagbo à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il y a eu le scandale des déchets toxiques au port d'Abidjan, ce genre de choses. Et en même temps, ils ont largement soutenu le régime loyaliste contre la rébellion du Nord. Et donc c'est pour ça que c'est ambigu, mais il y a, en tout cas sur les grands sujets de société, notamment voilà sur ces questions de l'ivoirité, ils ont plutôt été en opposition, à part certains, mais vraiment la plupart ont été en opposition à ça. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont été pour la rébellion armée. Voilà, c'est ça l'ambiguïté.
Voilà, ne pas se prononcer pour quelque chose n'est pas non plus prendre un engagement contre. En tout cas, Yodé Siro, dont on parlait tout à l'heure, dans une chanson en 98 par exemple, il parle d'Alassane Ouattara, donc il vient du Nord, et contre qui est dirigé ce concept d'ivoirité. Ils disent: je connais un monsieur, il était ivoirien, et puis après il est devenu Mossi, donc cette ethnie dont Alassane Ouattara est issu. Eux, Yodé Siro, ils font partie d'un collectif patriotique qui chante des morceaux anti-rébellion, financé par Charles Blégoudé, qui a aussi organisé sur ses fonds propres des concerts de grande ampleur en soutien au régime en place, donc de Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est par conviction politique ou par intérêt économique que les groupes de Zouglou à l'époque ont coopéré, sont lancés dans la chanson patriotique, sachant que Charles Blégoudé donnait de l'argent à qui en demandait d'une certaine façon? Pour le dire un peu vite.
En fait, c'est les deux. Il y a à la fois un vrai attachement, alors notamment à Charles Blégoudé. Charles Blégoudé, c'est un compagnon de route du Zouglou. Lui-même a toujours adoré le Zouglou. Il vient du campus de Yop 2 où c'est né. C'est un compagnon de route de ces artistes-là. Ils se connaissent très bien, ils sont amis.
Il fait la guerre en dansant alors.
Un petit peu, ouais. Clairement. Et donc il y a cet attachement-là, la personne de Charles Blégoudé, il y a ce compagnonnage. Ils sont d'accord sur beaucoup de choses. Ils sont tous issus d'une certaine idéologie de la gauche ivoirienne à cette époque-là. Et donc, il y a à la fois, voilà, ces investissements, bah, ils sont contents de les prendre parce qu'ils disent aussi ce qu'ils pensent. Et évidemment, dans une période de crise où les entrées d'argent sont difficiles, notamment parce que les ventes d'albums ne fonctionnent plus à cause du piratage, ils sont aussi un peu forcés de faire ce genre de choses parce que, bah, il faut bien vivre aussi.
Donc, il faudra attendre la réunification du pays suite aux accords de Ouagadougou en 2007 et la fin des années 2000, tout simplement, pour que le secteur musical soit mieux structuré, que les artistes puissent compter sur différentes sources de revenus, que le secteur se professionnalise et donc puisse prendre peu à peu son indépendance par rapport aux hommes politiques et à leur réseau. Vous évoquez la création de salles de concert en live comme l'Internat à Abidjan, des lieux qui intéressent, les financements, les partenariats avec les entreprises privées comme Heineken ou Castel, d'ailleurs les brasseurs dont vous parliez tout à l'heure, ou les opérateurs de téléphonie mobile. Est-ce que cette nouvelle économie de la musique qui émerge dans les années 2010 va contribuer à changer le parcours et même les profils d'une nouvelle génération d'artistes ivoiriens?
Oui, complètement. En fait, le fait que l'industrie se professionnalise, avec tous les éléments que vous venez de donner, mais également parce qu'il y a des grands majors qui arrivent en Côte d'Ivoire, Universal et Sony.
Sony, ouais.
Tout ça, ça...
C'est plus récent, Sony, non ?
Les deux sont arrivés en 2017, d'accord, je crois. Voilà. Et donc, tout ça fait que l'argent rentre différemment. Et ça rentre par des choses un peu plus légales, ou en tout cas un peu plus formelles, notamment à travers du sponsoring, à travers des contrats commerciaux, à travers... la vente, à travers le streaming aussi, de plus en plus. Et donc, les artistes sont de moins en moins dépendants du mécénat politique. Et donc ça permet également à tout un tas d'artistes qui étaient éloignés de ces réseaux politiques, je pense notamment à certains artistes de rap, qui vont progressivement émerger aussi en se mettant dans des circuits beaucoup plus classiques et formalisés de la musique, sans avoir à dépendre de tout ça, et donc aussi à gagner, entre guillemets, une certaine liberté, même s'ils n'en profitent pas sur le plan politique parce qu'ils sont très peu engagés. Mais, en tout cas, ils n'ont plus à être forcément tout à fait dépendant de ces réseaux politico-économiques comme l'étaient leurs prédécesseurs.
Même si en fait ces réseaux vont changer quelque chose de façon assez intrigante vu d'ici, cette nouvelle économie du live qui va créer de nouvelles dépendances avec ses pratiques très spécifiques en Côte d'Ivoire, le travaillement et le spot, en quelques mots, en quoi ça consiste ?
Donc le travaillement, c'est le fait pour quelqu'un dans le public, dans une salle de spectacle, de se lever, d'aller donner de l'argent sur scène à un artiste.
Direct.
Directement, de manière assez ostentatoire. Donc en mettant dans les poches, en étalant sur le front, etc. Et le spot, c'est une technique, donc là, dans les studios, quand les artistes enregistrent, de placer des noms de personnalités dans le morceau, souvent entre deux couplets ou dans les refrains. Ces deux pratiques, c'est des entrées d'argent importantes pour les artistes. Parce que les gens qu'on spot sont aussi potentiellement des gens qui vont venir travailler sur scène. Donc il y a des stratégies qui sont mises en place par les artistes pour récupérer de l'argent grâce à ces pratiques-là. Et donc ça, c'est plutôt des pratiques qui, en fait, conservent une grande informalité dans la musique. Donc à la fois, il y a une structuration forte d'un côté, et à la fois il y a toutes ces pratiques-là qui font perdurer certains liens avec les réseaux d'affaires, avec l'économie et avec le politique. Et certains artistes sont devenus un peu dépendants de ça, notamment dans Coupé Décalé, avec des citations d'hommes politiques. Je pense à Feu Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre, qui était énormément cité par les artistes de Coupé Décalé parce qu'il aimait beaucoup cette musique et qu'il venait régulièrement donner de l'argent aux artistes de Coupé Décalé.
Bon, c'était pas un investissement finalement qui s'est avéré très, très fructueux à long terme.
Voilà.
Il a disparu quelques années ou quelques mois plus tard. Vous nous racontiez, Léo Montes, comment Alassane Ouattara, depuis 2010, a progressivement rallié les artistes à sa cause, d'abord en réunissant tous ceux qui n'étaient pas d'accord entre eux dans des grands concerts et en disant il faut qu'on se prononce tous et qu'on chante tous pour l'unité nationale. Comment aujourd'hui tout ça crée des débats entre les artistes, entre ceux qui pensent être dans une forme d'allégeance assez libre au régime en place ou au contraire qui ont l'impression que ce patronage est un peu forcé, certains qui assument cet engagement, d'autres pas?
En fait, les méthodes du restaurant, comme on appelle ce parti, sont assez subtiles pour que les artistes y rentrent un peu de bonne volonté. En fait, ils se rendent bien compte qu'à partir du moment où ils sont pas critiques du régime et où ils participent à cette idéologie du développement que prône le régime Ouattara, ils se rendent bien compte que leur affaire marche bien, que quand ils veulent acheter des terrains, on leur met pas de bâton dans les roues, que quand ils veulent faire des affaires, on les laisse faire, etc. Donc en fait, ce que disaient d'autres invités lundi, le parti remercie aussi, en tout cas, et n'entrave pas ceux qui le soutiennent, même de manière un peu tamisée, quoi. Donc, c'est ça aussi la force d'un régime comme celui actuel en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de l'oppression, même s'ils le font là durant la campagne, hein, mais je veux dire, de manière générale, il n'y a pas besoin d'avoir une oppression forte, il n'y a pas besoin de mettre des coups de matraque. Il suffit, en fait, de favoriser les affaires pour que les uns et les autres se rendent compte qu'ils sont bien ici.
Et soutenir Alassane Ouattara de manière tamisée, c'est par exemple cet artiste Prométhée qui vous dit Francis Cabrel non plus, il ne fait pas de politique, Garou non plus, en France, moi non plus, je n'ai pas envie de faire ce choix, et ce qui est politique dans sa démarche à lui, dit-il, c'est donner aux jeunes l'envie de vivre. Donc il y a une forme de dépolitisation qui est in fine une forme de soutien à Alassane Ouattara, c'est intéressant. Alors on a parlé que du Zouglou, Léo Montaz, mais est-ce qu'Alassane Ouattara ne parie que sur ce genre musical?
Alors non, il parie d'ailleurs plutôt sur un autre genre musical qui est le rap ivoire, donc ce nouveau dérivé du rap qui cartonne depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Pour preuve, l'artiste qui a été invité à son meeting de Korogo, une grande ville du nord de la Côte d'Ivoire, c'était Didi B, qui est l'une des plus grandes stars du genre. Il a chanté à ce meeting. Lorsque Ouattara est rentré dans le stade pour le meeting de la jeunesse du parti il y a quelques jours, c'était sur le son de l'autre star du rap ivoire qui s'appelle Imra, un son qui s'appelle Banger, et je me permets juste d'en citer une parole qui je trouve est assez claire. Dedans, il dit « Le trône arrive sur mes mollets et vous pouvez sentir la pression ». Bon, ah. Peut-être qu'avait-il un parallèle avec la position du président.
Pardon, j'ai entendu trône d'une autre manière. En tout cas, la star du rap ivoire, il est connu maintenant mondialement puisqu'il fait des duos, notamment avec des rappeurs français. Lafouine, par exemple, dans ce clip tourné à Abidjan en septembre.
Ils t'ont laissé à terre car il y avait des trous quand ils ont fait les comptes. Ils l'ont fait un jour férié, tu crois que les shooters ils ont fait le pont. Et ces bâtards ont visé les auréoles. Et le cœur il est froid comme à Montréal. Rien que ça fume et le vécu est trop réel. Trop de pétards ça t'allume au pluriel.
Déterminé c'est pas la folie. On est des agamés au koi. C'est Dieu donné où y'a pas d'oeil. J'ai vécu les montagnes, j'ai pas peur des collines. T'as beaucoup à dire quand c'est toi qui paie. Dans la cabine je pense à mon père qui m'amenait voir la fouine en concert. Légendaire, je suis comme Jackson.
Ah, donc on en est voir la fouine en concert dans la famille de Imra. Ce rap ivoire, il mélange le coupé décalé et le rap. Il reprend les instrus de coupé décalé comme celle de DJ Arafat et il mixe le tout avec des sonorités drill. Les grosses stars, donc vous disiez Didi B et Imra. Est-ce qu'on peut dire que ces nouveaux artistes sur la scène musicale ivoirienne sont les fruits, entre guillemets, d'un développement très rapide de l'industrie musicale en Côte d'Ivoire, en mettant la politique un peu de côté, en parlant simplement de l'industrie musicale en tant que telle?
Oui, tout à fait. Ces artistes-là, contrairement à ceux de Zouglou, ils sont dans des réseaux beaucoup plus formels. Quand ils font des tournées en Europe, c'est dans des grandes salles avec des structures de production qui les accompagnent, avec des spectacles qui sont bien faits, comme en Europe d'ailleurs ou ailleurs. Donc c'est des artistes qui sont bien plus dans un mode de développement de la musique formelle et classique que ne l'étaient ceux de Zouglou qui marchaient et qui marchent toujours en grande partie sur des réseaux informels. Et c'est aussi des artistes qui bénéficient de toute une infrastructure, notamment des médias, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, qui les poussent. Je pense à tous les médias rap en particulier, auxquels ils ont accès, qui parlent d'eux, d'où d'ailleurs le succès de certains artistes de rap ivoire en France, et d'où ces duos avec des artistes de rap français très connus.
En 5 ans, le nombre de streams, comme on dit aujourd'hui, des artistes de Côte d'Ivoire a été multiplié par 2. On a de grosses majors que vous citiez tout à l'heure qui investissent en Côte d'Ivoire, et un gouvernement qui accompagne aussi le mouvement en développant les droits voisins qui doivent permettre à tous les maillons de la chaîne de production d'un titre musical de toucher des droits. Un petit mot de conclusion quand même, Léo Montaz, le reggae, lui, est-ce qu'il est toujours considéré comme contestataire? Est-ce que ça marche toujours, le reggae, en Côte d'Ivoire?
Oui, le reggae marche toujours, mais il a un public un peu plus vieux, peut-être. Il y a beaucoup d'espaces live de reggae à Abidjan qui marchent très bien, avec des dates toutes les semaines. Mais effectivement, le reggae a perdu de l'aura qu'il avait à l'époque d'Alpha Blondy dans les années 80, ou même années 90 avec Tiken. Aujourd'hui, c'est une musique de gens un peu plus âgés, peut-être un peu plus mélomanes aussi. Et oui, il y a toujours une portée contestataire. Lorsqu'on va au concert, il y a des discours critiques qui peuvent s'y tenir de la part des artistes. Donc oui, le reggae garde cette position-là, mais c'est pas une musique de jeunesse et c'est pas une musique qui est aussi diffusée que ne le sont le rap ivoire, le coupé décalé ou le zouglou.
Tiken Jafakoli, aujourd'hui, il vit entre le Mali et le Québec. Il chantait ici en 2007 « Ma Côte d'Ivoire » avec Beta Simon. Simon.
Politique, politique t'a gâté mon pays. La Côte d'Ivoire, mon beau pays, pays d'hospitalité, pays de fraternité. Mais les politiciens ont décidé de te transformer. Ma Côte d'Ivoire, je ne veux plus te voir en larmes. Ma Côte d'Ivoire, je ne veux plus te voir prendre les armes.
Tiken Jaffa Coli en duo avec Beta Simon, Ma Côte d'Ivoire 2007, le reggae, l'autre genre contestataire historique. En Côte d'Ivoire, nous avons surtout parlé du zouglou avec Léo Montaz, de sa perte progressive de la dimension contestataire qui lui a pourtant donné naissance. Ça s'explique à la fois par les différentes crises politiques et guerres que la Côte d'Ivoire a traversées depuis 2002, mais aussi par la professionnalisation de l'industrie musicale, laquelle ne compte pas seulement sur les nouvelles voix, mais aussi sur les nouveaux danseurs.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Nous, c'est pas danser, nous, on s'appelle le biama. Le biama, c'est pas un concept, c'est un mouvement qui a été créé. C'est une danse qui a été créée. On n'appelle pas ça la danse, on appelle ça le biama. J'étais pauvre dans une salle de jeu. Et toi, t'es joué à Konami.
D'accord.
Et j'ai gagné le jeu. Donc, je me suis précisément retourné, j'ai sauté le banc, je me suis mis à danser. Et un ami m'a filmé, il a balancé sur les réseaux. C'est comme ça que ça a commencé.
Kalo Mama, promoteur du Biama, nouveau genre de danse et de musique qui marche très très bien à Abidjan, ici interrogé par Brut. Alors lui est tout jeune, il dit que le Biama c'est la danse des immatures. Elle est difficile à décrire, on dirait qu'il piétine en avançant tout en faisant mine de creuser avec les bras, pour le dire un petit peu vite. Il s'est mis un jour à danser devant un match de foot, ses copains l'ont filmé et c'était le début de la gloire. D'autant qu'en Côte d'Ivoire, le succès des danseurs contribue à celui des chanteurs auxquels il s'allie. Bonjour Sarah Andrieux.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en anthropologie à l'Université Côte d'Azur. Vous aviez fait paraître il y a 2 ans l'article Vidéoclip, réseaux sociaux et professionnalisation des danseuses et des danseurs urbaines et urbains à Abidjan dans la revue Émulation. Vous deviez être avec nous en studio, mais la tempête Benjamin a eu raison de votre venue. On est content de vous entendre quand même. Alors, des chanteurs dont on parle depuis le début de cette émission, est-ce que beaucoup se sont fait connaître aussi par le danseur ou par la danseuse qu'ils ont choisi pour les accompagner sur scène?
Oui, les danseurs revendiquent souvent le fait de mettre en valeur en fait les artistes et les musiques. Et peut-être qu'une des figures les plus connues avec ses danseurs et ses danseuses notamment, c'est Serge Benno, qui a profité en fait des savoir-faire de danseuses comme Zota. Qui aujourd'hui sont devenus des stars. On peut penser aussi aux danseurs de DJ Arafat, Ordinateur et Bébé Sans Os, qui aujourd'hui ont des carrières internationales. Donc en effet, les danseurs revendiquent souvent le fait de faire l'artiste tout autant que les managers, les arrangeurs du son, et donc de contribuer largement en fait à la réussite des artistes chanteurs.
DJ Arafat, Serge Benno, qui ont construit leur succès auprès de danseurs attitrés que vous citiez, Bébé Sans Eau, Ordinateur aussi, qui ont inventé entre guillemets le concept Kong. Le concept, c'est très important, le coupé décalé. Et là, concept Kong, j'imagine que c'est un peu comme King Kong. On est un petit peu, oui, on met un peu de King Kong dans la danse. Zota, c'est une femme aux cheveux très court et blond platine qui a un succès très large en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, me semble, Serge Benno, Sarah Andrieux, vous nous avez expliqué en préparant cette émission, Serge Benno utilise encore la figure de Zota, l'image de Zota pour ses tournées.
Ouais, tout à fait. Là, Serge Benno est en train d'organiser un grand concert, une série de grands concerts à Abidjan en décembre. Et en fait, sur les réseaux sociaux et donc sur TikTok et Facebook notamment, Serge Benno ressort en fait des images d'archives de ses propres concerts où on voit Zota toute jeune incarner certains de ces fameux concepts de danse. Le concept, c'est à la fois une attitude, c'est à la fois une posture, c'est à la fois un geste. C'est une danse, c'est quelque chose d'assez complexe, mais en tout cas, c'est une signature gestuelle. Et en fait, ces danseuses ont incarné et ont permis aussi de diffuser des concepts gestuels au niveau du grand public ivoirien, qui est amené aussi à incorporer en fait ses propres concepts, à les reproduire dans les maquis, dans les bars de plein air, dans les boîtes de nuit, et puis aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
D'où l'importance, comme vous le dites dans votre article, de la dansabilité d'un morceau. C'est ce que vous disent les gens sur place. Beaucoup de chanteurs ont en partie connu le succès grâce au talent des danseurs et danseuses qui ont fait connaître leur morceau avec un pas de danse novateur et surtout caractéristique, il faut le retenir. Est-ce que les danseurs et les danseuses peuvent prétendre à des rémunérations aussi élevées que les chanteurs ?
Bah, les danseurs, donc en effet, mettent en avant le fait que c'est eux qui font le succès de l'artiste, mais disent-ils, en contrepartie, on ne récolte que des miettes. Ces miettes, donc, ce sont des salaires moindres. Ce qu'ils souhaitent, c'est que leur savoir soit reconnu et donc qu'il y ait aussi des rémunérations en conséquence quand on va tourner un clip, quand on participe à une scénographie de concert live, de pouvoir être payé à la juste mesure du travail réalisé. Pour réaliser une chorégraphie de clip, ça peut être une semaine de répétition, faut pas juste être payé le moment du clip, il faut que toutes ces répétitions elles puissent aussi être prise en compte pour que ces artistes puissent vivre de la danse.
Et c'est tellement central aujourd'hui dans l'économie du coupé-décalé et de la musique ivoirienne en général qu'il y a une nouvelle profession qui a émergé en Côte d'Ivoire, chorégraphe de concert. Est-ce que ces danseurs et danseuses s'émancipent aussi des artistes chanteurs en suivant leur propre carrière, que ce soit seul ou en montant des troupes de danse par exemple ?
Oui, là, on voit fortement, donc il y a ces nouveaux métiers qui apparaissent, chorégraphe de clips, chorégraphe de concerts. Et puis, on voit aussi que les danseurs eux-mêmes s'organisent, donc en les danseurs urbains notamment, s'organisent en troupe et vont réaliser des tournées sans les artistes chanteurs. Donc, où ils vont utiliser, mixer eux-mêmes, en fait, les sons des différents artistes pour créer des spectacles originaux. Et là, je pense à une troupe que je suis dans mon travail qui s'appelle Les Génies de Babi, qui en ce moment est en tournée en Hollande avec un spectacle qui s'appelle Roukaskas. Les Roukaskas, c'est un mot qui a été formé à partir du son de la batterie. Et donc, c'est ces acrobaties qui sont très présentes dans le coupé décalé. Et donc, eux-mêmes, en fait, ont créé un spectacle qui va mêler coupé décalé, Biama, aussi danse contemporaine. Voilà, ils vont aller puiser à différentes ressources d'inspiration pour créer des spectacles qui vont jouer sur des scènes de théâtre européennes.
Et comment est-ce qu'ils ont appris à danser ? Est-ce qu'ils ont appris seuls ou est-ce qu'ils ont suivi pour la plupart réelle une formation, par exemple, de l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, l'INSAC, qui est une grande institution de formation culturelle ?
Alors, l'Institut National Supérieur des Arts va en effet dispenser une formation au niveau licence et au niveau master. Donc, on peut avoir une licence en danse ou un master en danse à Abidjan. On va apprendre à l'INSAC à la fois des pratiques de danse traditionnelle ivoirienne, la danse classique, la danse moderne. On va aussi apprendre l'histoire de la danse, l'anthropologie de la danse, toutes les questions de législation de droit d'auteur. Mais pour pouvoir entrer à l'INSAC, en fait, il faut avoir un baccalauréat et la plupart des danseurs urbains ont arrêté l'école assez tôt et donc ils ne vont pas pouvoir rentrer à l'INSAC. Donc en effet, il y a une professionnalisation du côté de l'INSAC et une institutionnalisation de la formation. C'est quelque chose d'important hein, au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais par contre, cette institutionnalisation va laisser en fait une partie des danseurs de côté, notamment les danseurs urbains ou les danseuses urbaines qui viennent de milieux plus populaires.
Et vous dites d'ailleurs que pour ceux qui s'engagent à l'INSAC, c'est un choix de carrière très fort, car en Afrique de l'Ouest, les danseurs, écrivez-vous, sont considérés comme des voyous et les danseuses sont associées à des prostituées. Alors qui sont ceux et celles qui font ce choix d'entrer à l'INSAC ?
Ben là, on peut avoir des trajectoires très, très diversifiées, des gens de milieux plutôt populaires, mais des gens aussi de la classe supérieure. En tout cas, ce qu'on entend ici, c'est que ces différents danseurs et danseuses se sont pour la plupart battus pour pouvoir s'inscrire à l'INSAC plutôt qu'une formation universitaire en droit ou en commerce ou en management. Donc, il y a une vraie bataille à faire accepter ce choix, que la danse peut être un métier, mais que la danse aussi, ça peut être un métier respectable et qu'on peut gagner sa vie en dansant. Et l'INSAC contribue à rendre le métier de danseur sérieux.
Même si ces danseurs urbains que vous avez particulièrement suivis, Sarah Andrieux, sont pour la majorité issus des quartiers les plus pauvres, des grandes villes, et n'ont pas le bac, donc doivent se former en autodidacte, aussi dans les émissions de télévision du type Variétoscope ou Vozo Vacances,
c'est ça ? Oui, Vozo Vacances.
Vozo Vacances, où on, un petit peu comme la Nouvelle Star, enfin, on découvre de nouveaux talents.
Exactement.
Et vous dites qu'on gagne sa vie. Alors, ils parviennent rapidement à vivre quand même de leur activité. Vous citez souvent un certain Stéphane, par exemple.
Oui, Stéphane, aujourd'hui, donc c'est le leader en fait de cette troupe, les Génies de Babi. C'est un jeune danseur originaire d'Abobo, qui est issu d'une famille très modeste. Il a gravi petit à petit les échelons. Au départ, il était danseur de maquis, puis il a dansé auprès d'artistes. Il s'est attaché à certains artistes et puis il a dansé auprès de Massidi Adiatou, qui est un chorégraphe ivoirien de danse contemporaine. Il a participé à des tournées, puis il a monté son propre groupe. Il a monté aujourd'hui sa salle de danse dans le quartier populaire d'Abobo. Et puis là, il rentre tout juste d'une tournée en Hollande, où il a réussi à partir avec six jeunes danseurs d'Abobo. Donc c'est aussi pour lui, en fait, il est déjà, alors qu'il est tout juste trentenaire, mais il est déjà dans une démarche de transmission aux plus jeunes. Et son souhait, c'est de dire on peut vivre de la danse, on peut vivre de sa passion. Et ça, c'est très important pour lui.
Merci de nous avoir raconté ces trajectoires. Sarah Andrieux, maîtresse de conférence en anthropologie à l'Université Côte d'Azur. Et je vous remercie aussi beaucoup, Léo Montaz, d'avoir été avec nous depuis le début de cette émission. Je rappelle que vous êtes chercheur en anthropologie politique au LAMC, le Laboratoire d'anthropologie des mondes contemporains. Merci beaucoup.
Merci.
C'est l'heure de la revue de presse internationale. La revue de presse avec vous, Camille Marigot. Et ce matin, vous parlez de la cyberfraude qui prospère en Birmanie grâce à l'entreprise SpaceX.
Plus précisément grâce aux appareils Starlink utilisés dans des centres d'escroquerie à grande échelle. La société d'Elon Musk a annoncé hier avoir fermé plus de 2500 récepteurs disséminés dans ses usines à fraude qui exploitent des milliers de travailleurs venus de toute l'Asie et d'Afrique forcés à escroquer en ligne pour des milliards de dollars. Écoutez ce témoignage que nous diffusions sur notre antenne en mai dernier, recueilli par notre correspondant à Pékin, Sébastien Berriot. En 2023, cet acteur chinois répond à une offre pour un tournage, mais à la place, il est envoyé dans un de ses ses centres au nord de la Birmanie.
Chaque jour, les trafiquants venaient dans la maison pour choisir leur main-d'œuvre. Ils étaient masqués parce qu'il y avait une odeur de sang humain sur place. Ils nous frappaient avec des bâtons aux fesses et aux jambes, au moins 10 coups chaque jour. J'ai même vu des gens se faire tirer dessus pour avoir résisté. Je vivais au 4e étage et travaillais au 7e. On avait chacun 4 iPhones sur lesquels on devait gérer 20 comptes Instagram afin d'arnaquer les gens avec de faux investissements dans les crypto-monnaies.
D'immenses complexes qui continuent à fonctionner malgré la répression et grâce à Starlink, indique le média exilé en ligne Frontier Myanmar. Dans une Birmanie longtemps restée coupée du monde, dirigée par la junte militaire, Starlink, toujours pas officiellement autorisé là-bas, est devenu en quelques mois le plus grand fournisseur d'accès Internet du pays, toujours déchiré par la guerre civile depuis 2021, décrit le quotidien thaïlandais Bangkok Post. En début de semaine, la junte au pouvoir a annoncé de son côté, via les médias qu'elle contrôle, avoir perquisitionné l'un des centres les plus connus, le Keke Park, et saisi une trentaine de récepteurs Starlink, arrêté plus de 2000 personnes. Mais le site Mizima News Agency, fondé par des dissidents birmans en exil, assure au contraire que l'opération a eu lieu dans un autre complexe, que le matériel saisi se limite à de vieux écrans. Une publicité organisée, dénonce Mizima, destinée à détourner l'attention internationale de ces centres d'escroquerie, justement dirigés par des milices alliées au pouvoir, précise la BBC, des centres qui font aussi l'objet d'une enquête aux États-Unis. Le tout alors que la junte reprend des territoires contrôlés depuis 2 ans par les groupes insurgés, ajoute la BBC, sur la principale route qui relie la frontière chinoise au reste de la Birmanie. La Chine qui soutient la junte contre ses opposants, qui fait aussi en quelque sorte la pluie et le beau temps à cette frontière, en faisant également pression sur la junte pour agir contre ces centres contrôlés par des groupes criminels chinois contre des victimes chinoises, explique la BBC et la revue Conflit.
En Irlande, Camille, c'est la 3e nuit de manifestations violentes contre un centre d'accueil de demandeurs d'asile.
Des centaines de personnes à nouveau rassemblées près de l'hôtel City West, transformé en centre d'accueil à l'ouest de la capitale, explique The Guardian. 90 minutes de folie, titre The Irish Times. La police a essuyé des tirs de feux d'artifice, de briques arrachées au mur et même l'assaut d'un sulky tiré par un cheval, relate de son côté le Belfast Telegraph. Ces manifestations interviennent après l'agression sexuelle présumée d'une fillette de 10 ans. Lundi, plusieurs médias locaux ayant rapporté que l'auteur était un demandeur d'asile de 26 ans. Dans les slogans et sur les pancartes, des messages comme « Irish Lives Matter », « La vie des Irlandais compte ». Des habitants cités par le Belfast Telegraph déclarent que s'il y a bien un mécontentement dans la région au sujet du centre, ces violences sont le fait de personnes venues d'ailleurs dans le pays pour provoquer des troubles. Le maintien de l'ordre contre les manifestations anti-immigration a dans le passé laissé de mauvais souvenirs à la police irlandaise. The Irish Independent rappelle les émeutes de Dublin en novembre 2023 qui avaient éclaté après une attaque au couteau contre des enfants. L'intervention des forces de l'ordre dépassée par le chaos s'était soldée par des dommages considérables. Et selon les autorités, ces manifestations sont aujourd'hui organisées sur les réseaux sociaux par des individus difficiles à identifier en raison de la nature fracturée, non structurée du mouvement d'extrême droite anti-migrant en Irlande, relate The Irish Examiner.
Enfin, pour conclure, Camille, et ça n'a rien à voir, le moustique qui nous casse bien les pieds en ce moment, si je peux me permettre, prend ses quartiers en Islande.
Une première malheureuse, titre le New York Times. Le pays était jusqu'ici l'un des seuls endroits au monde sans moustiques, avec l'Antarctique, précise The Guardian. La petite bête a été découverte la semaine dernière près de la capitale par un passionné d'insectes dans son jardin. Selon le quotidien islandais Morgun Blazis, l'homme est perplexe devant ce qu'il croit d'abord être une mouche bizarre. Il en capture 3 qu'il envoie dans un laboratoire. Verdict, il s'agit bien d'un moustique de l'espèce Culicetta annulata. Si 1 ou 2 spécimens ont pu apparaître et disparaître dans le pays, selon les scientifiques, cette découverte témoigne de la rapidité avec laquelle le changement climatique et la mondialisation transforment l'Islande. Après avoir importé Halloween, l'Islande a désormais importé de véritables suceurs de sang. Se désole de Reykjavik Grabvin, l'explosion du nombre de touristes dans le pays, d'avions, de navires de croisière et de cargo offre aussi aux insectes la possibilité de s'installer. Ces 3-là, pour l'instant, vont rester bien au froid, conservés dans un congélateur au laboratoire. migratoire, précise le New York Times.
Merci Camille Marigot. Demain dans Culture Monde, comme chaque vendredi, vous retrouverez Mélanie Chalandon et Marc Semo et leurs invités avec une table ronde consacrée à la Hongrie, le réveil de l'opposition. C'est une question que Mélanie posera à Joël Le Pavou, journaliste, et Paul Gradvaux, l'historien. Une table ronde précédée d'un retour de terrain, les conditions d'exercice du métier de journaliste en Russie avec Julien Colling.